Mesdames et messieurs, la violence, l'impulsivité et l'instabilité sont des traits psychologiques que de nombreuses sources littéraires associent au néos, tout comme sa tendance à perpétrer des actes héroïques ou à suivre des chefs héroïques. L'analyse qu'a faite Pierre Roussel dans son étude sur le principe de l'ancienneté dans le monde hellénique, des passages de la politique d'Aristote et des lois de Platon consacrés au rôle des néotéroi dans le déclenchement des guerres civiles, constitue aujourd'hui encore une lecture fondamentale. Bien que daté du début du IIe siècle après Jésus-Christ, le traité de Plutarque, Ei presbytero politeiteon, si un vieillard doit prendre part au gouvernement, présente d'intéressants développements psychologiques sur les néoi, insistant en particulier sur leur irascibilité, leur propension à l'égoïsme et leur désir de se mettre en avant. Ils pouvaient être, je cite, « bouillonnants, ivres de gloire et d'ambition, manquant de raison et de sang-froid, ou être encore assoiffés de gloire et de pouvoir, dipsonton doxes kai dynameos ». De plus, Plutarque les présente comme faisant preuve de manque de réflexion et de diplomatie. J'ai déjà signalé qu'il fallait être prudent face à des schémas de ce type. Nous ne pouvons pas plus les considérer comme un reflet exact des situations réelles que nous ne le ferions des analyses en termes d'opposition entre riches et pauvres ou entre l'élite et la masse. Il vaut cependant la peine d'étudier et de replacer dans leur contexte les épisodes rapportés par Polybe ou Diodore, au cours desquels les lignes de fracture semblent coïncider avec les divisions générationnelles. C'est ce que je vous propose d'entreprendre aujourd'hui. Malgré le changement de titre de cette conférence par rapport au programme annoncé, je voudrais vous rassurer, ce que j'ai appelé l'illusion éphébique ne sera pas complètement absent de mon propos du jour. Le long et célèbre passage du livre 4 de Polybe décrivant la guerre civile dans la cité crétoise de Gortyne, qui s'est déroulée dans le contexte de la guerre entre Knossos et Lithos en 221-219 avant Jésus-Christ, dont vous avez le texte dans votre dossier, c'est le numéro 1, peut choquer par la description qu'il donne de violence entre générations. Je l'ai déjà mentionné brièvement lors de ma première conférence et j'aimerais y revenir maintenant. En 222, un accord entre les deux grandes cités crétoises de Knossos et Gortyne et leurs alliés respectifs déboucha sur l'unification d'une grande partie de la Crète et sur la renaissance du koinon crétois sous la direction des Knossiens. Les nouveaux alliés essayèrent d'asservir la puissante cité de Lithos. La guerre qui en résulta, probablement en 221, entraîna une fragmentation du koinon. Plusieurs cités de Crète occidentale firent défection et prirent le parti des Lithiens. D'après Polybe, à Gortyne, les néotéroi ou néoi, Polybe utilise les deux termes, et les presbyteroi ou presbytatoi prirent des partis opposés. Les jeunes gens prirent le parti des Lithiens, tandis que les presbyteroi soutinrent les Knossiens dans leur tentative de conquête de Lithos. Les presbyteroi occupèrent la citadelle et réussirent à la garder avec l'aide des Knossiens et d'un contingent de soldats étoliens rapidement mobilisés. Au cours de ces affrontements, de nombreux jeunes furent tués, d'autres furent bannis de la cité. Peu après, des exils occupèrent l'Ébéna, le port de Gortyne. Vous pouvez lire ça dans le chapitre 55, les dernières lignes. Et Matalon, le port de Phestos, rendant ainsi définitive la rupture entre Néoi et Presbyteroi. La topographie du conflit n'est pas très claire dans le récit de Polybe et les déplacements exacts restent difficiles à situer dans l'espace. Il est possible que la citadelle, l'Acra, que mentionne Polybe dans 53.9, correspondent à ce qu'un certain nombre de documents gortiniens contemporains appellent la cité haute, Anopolis. Dans des autres documents, le terme de cité haute et le terme de cité basse, Catopolis, auquel il est associé, semble faire référence à Gortyne et Phaistos respectivement. En effet, à une date inconnue au cours de la seconde moitié du IIIe siècle, les deux cités furent associées dans une sympolitie dont Gortyne était le partenaire dominant. Polybe laisse donc incertaine la question de l'endroit exact où les jeunes gens se réfugièrent et à partir duquel ils réussirent à s'emparer des ports de Phaistos et de Gortyne. Plusieurs savants modernes ont ajouté une dimension supplémentaire à l'exode des Néotoroi vers les ports de Lébéna et de Matalon. Dans l'entrée Lébéna de l'Inventory of Archaic and Classical Greek Polis, Paula Perlman écrit, je traduis, « D'après Strabon, dit 411, Lébéna était l'emporion de Gortyne et nous devrions peut-être voir Lébéna comme le limen, la frontière tenue par les néotéroi gortyniens pendant la stasis qui s'est déroulée à Gortyne pendant la guerre lytienne. » Fin de citation. Notons ici l'association presque inconsciente de la jeunesse avec les frontières, les limites, rapprochement que nous devons à l'étude fondatrice de Pierre Vidal-Naquet sur le chasseur noir, et qui est clairement, et peut-être de manière déconcertante, devenue partie intégrante de notre propre imaginaire, tout comme nous le supposons avoir été partie intégrante de l'imaginaire grec. Ces événements semblent avoir consacré la rupture entre Néoi et Presbyteroi, mettant en scène le type de scénario potentiellement conflictuel qu'avaient prédit Platon et Aristote. Le récit de Polybe est confirmé de façon dramatique par une lettre des Cnossiens adressée au peuple de Kos et honorant un certain Hermias, médecin de l'île de Kos, qui était venu en Crète à la demande des Gortyniens pour soigner leurs blessés. Un décret de Gortyne honore le même individu. Vous avez le premier texte, les lettres des Cnossiens, dans votre dossier comme le numéro 2. La stasis initiale et la prise des deux ports qui a suivi y sont toutes les deux mentionnées. À la ligne 4 de la lettre des Cnossiens, on lit en effet Stasios de Genomenas en Gortyni. Une guerre civile s'étant déclarée à Gortyne, nous avons, en vertu de la convention d'alliance, pris part au combat, ce sont les Cnossiens, qui se déroulait dans la cité de Gortyne, et il arriva que certains de nos concitoyens et de nos alliés fussent blessés au cours des affrontements, et qu'un grand nombre d'entre eux, à la suite de leurs blessures, fussent en proie à des maux d'une exceptionnelle gravité. Aux lignes 15 à 20 du même texte, on lit « Et alors qu'un nouveau combat s'était produit, Palin de Genomenas Machas, autour de Phaistos, faisant de nombreux blessés et menaçant gravement la vie de nombreux malades, il déploya tout son zèle dans les soins et les sauva de graves dangers. » À un moment donné, au cours de cette guerre, le général achéen Philopoémen arriva en Crète, peut-être à l'instigation du roi macédonien Antigone d'Ausson. La mort de d'Ausson en 221 entraîna par la suite l'implication dans les affaires crétoises de son successeur, le tout jeune Philippe V, et son intervention en faveur du parti anticnossien. Plus tard, ce dernier devait devenir prostates, président du koinon crétois. Comme Philippe, Philopoémen soutenait les opposants à Knossos, comme le signale Pausanias et Plutarque. La guerre s'acheva peu de temps après, en 219 ou 218. La cité de Magnésie du Méandre intervint en tant qu'arbitre entre les parties, comme l'atteste un décret honorifique retrouvé dans cette cité. C'est « Die Inschriften von Magnesia » numéro 65. qu'on ne peut pas dater avec précision. D'après le développement postérieur, il est probable que les adversaires de Knossos, menés par les Polyréniens, c'est une cité en Crète occidentale, et les Lycéens, avec l'aide du roi Antigonide et les Achéens, remportèrent la victoire dans ce conflit généralisé. À Gortyne, le parti des Néotoroi semble s'être aussi imposé à main que les différentes factions ne se soient réconciliées. Le célèbre serment des Éphèbes de Dréros, Éphèbes ou Agélaoi, au moment de leur admission au sein du groupe des citoyens adultes, dont vous avez un court extrait dans votre dossier au numéro 3, s'inscrivait précisément dans ce contexte historique. Vous avez aussi un petit glossaire à la page 8 pour comprendre Agélaoi et d'autres mots crétois. Dréros étant l'allié de Knossos depuis le début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le texte renvoie indirectement à la situation de Gortyne. Je lis dans les lignes 42 à 43, « Je ferai tout ce que je peux pour nuire à la cité de Lithos. O tika dunamai kakon. » Et après, « Et je serai un ami fidèle de Dréros et de Knossos. » Et ensuite, dans les lignes 60 à 63, « Jamais je ne participerai à une sédition stasios » et je m'opposerai aux séditieux, kai to stasizonti antios telomai. Jamais je ne participerai à un complot, ni dans la cité, ni à l'extérieur de la cité. Le rôle des Néoi dans la guerre civile de Gortyne a longtemps été associé à une institution exclusivement gortynienne, assez mal connue, appelée la Néotas. Et dont seul témoigne l'épigraphie. Les cinq textes que je vais vous présenter aujourd'hui sont tous liés à cette institution que l'on peut traduire, faute de mieux, par les jeunes gens, les jeunes, la jeunesse. Trois d'entre eux sont connus depuis longtemps, les deux autres ont été publiés récemment. La relation entre la Néotas et le récit polybien sur la guerre civile de Gortyne est tout à fait intéressante. De nombreux savants ont associé les deux éléments et ont vu dans la création du corps de la Néotas un résultat immédiat du conflit, peut-être en opposition avec une autre institution liée aux citoyens les plus âgés, une institution qui n'est pas exclusivement gortynienne et qui n'est attesté à Gortyne que sous la forme d'un seul magistrat, le pregistos ou les pregistoi au pluriel, c'est le crétois pour presbytatoi. Je reviendrai plus tard sur le sens de ce terme pregistos. Certains ont vu dans la Néotas l'équivalent du collectif des Néoi que l'on trouve ailleurs, tandis que d'autres ont totalement rejeté cette interprétation. Regardons donc plus en détail la guerre civile de Gortyne et sa relation avec la Néotas. Je commencerai par citer une conférence non publiée de Florence Gagnero-Driessen qui me semble présenter le cas le plus extrême de façon très claire, à défaut d'être tout à fait exacte. L'historienne va, comme corollaire de la sécession des Néotéroi, je cite, l'émergence d'une assemblée politique nouvelle, la Néotas, contrebalançant la très conservatrice Gerousia déjà établie. Le terme de Néotas conduit à penser que ce conseil est précisément tenu par les Néoi et qu'il s'inscrit dans le conflit qui oppose les deux partis de Gortyniens. Fin de citation. Si l'on accepte le fait que nous ne savons rien d'une Gerousia à Gortyne, la séquence proposée ici présente à première vue l'attrait d'une certaine logique historique. Si toutefois nous en venions à accepter une telle relation causale, il nous faudrait pouvoir montrer qu'aucun des textes dans lesquels apparaît la néotase n'est antérieur aux deux dernières décennies du IIIe siècle. Or, c'est loin d'être évident. La plupart des textes en question présentent des caractéristiques qui permettent de les dater approximativement de la seconde moitié du IIIe siècle. Dans un cas, l'éditrice propose avec la plus grande prudence le IIIe siècle, sans précision. Même la date du décret le mieux connu, dit sur le monnayage de bronze, c'est le numéro 4 dans votre exemplier, est sujette à discussion, puisque les suggestions vont des années 260-250 avant Jésus-Christ à la fin du IIIe siècle, c'est Angelos Chaniotis. Pour autant que je puisse en juger, cette datation est discutée justement du fait de sa relation avec la guerre lythienne. Mais si ce lien ne peut être exclu d'emblée, il ne peut pas non plus être présupposé. L'essentiel est que l'existence d'un corps appelé Ha-Neotas suggère que la division du corps civique de Gortyne entre jeunes et citoyens plus âgés fut institutionnalisée à un moment donné, mais pas forcément après la guerre lythienne. Des hypothèses très différentes et parfois audacieuses ont été formulées concernant la néotase gortynienne et ses activités. Afin de les analyser, il est nécessaire de regarder en détail les textes eux-mêmes. Alors, commençons par le texte le plus connu, le fameux décret de Gortyne sur l'usage du monnayage de bronze, décret de date incertaine. Vous pouvez voir sur l'écran une photographie de cette pierre issue des Inscriptiones Criticae 4, c'est le texte 162. La plupart des commentateurs considèrent que les lettres de l'inscription sont typiques de la deuxième moitié du IIIe siècle, et je n'ai aucune raison de les contredire. Angelos Chaniotis, tout en admettant que le sigma lunaire apparaît dans l'épigraphie crétoise déjà à la fin du IVe siècle, le considère ici comme datable de la fin du IIIe siècle, en dépit du fait qu'aucune des trois inscriptions sur lesquelles se base son jugement ne puisse être datée indépendamment des autres. Notre décret, inscrit sur la face d'un bloc de construction, concerne l'usage exclusif d'un nouveau monnayage de bronze. Il confie au corps des appelés néotas la charge d'arbitrer les cas de dispute au sujet de la mise en œuvre du décret et de percevoir les amendes auprès des perdants. Le dialecte crétois est peu, par conséquent, semblé peu familier aux hellénistes. Alors je vous donne quelques mots. À la ligne 2, evade vient de andano, plaire, la forme normale en crète pour edox. À la ligne 6, leioi vient de leio, qui correspond à thelo, vouloir, dans le dialecte attique et la koiné. Peuthen, à la ligne 8, est l'infinitif présent de peutho, puntanomai, informer ou faire connaître. Plies, à la ligne 12, est le comparatif de polus, plus. Et hemina, à la ligne 13, l'équivalent de l'attique hemisus, demi ou moitié. Alors, je traduis. Dieu, la décision suivante a été prise par la cité après un vote. Tad evad tai ta poli psafidonsi, 300 hommes présents, triakation parionton. Il faut utiliser le monnayage de bronze, kaucho, c'est chalko, émis par la cité et ne pas accepter les oboles, odelons, d'argent. Si quelqu'un accepte des oboles d'argent ou refuse le monnayage de bronze, ou vend quelque chose en échange de grains, carpo onioi, qu'il reçoive une amende de 5 statères d'argent. Les informations au sujet de tels cas doivent être présentées devant Peuthen de Porti, la Neotas. Et maintenant, je vous donne deux versions de traduction. La première, j'ai traduit, et les sept, Roy Hepta, choisi par tirage au sort, hoi ka la honti claromenoi, doivent juger crinonton la neotas, ce qui veut dire sur la base de quoi la neotas leur transmet sur serment omnuntes dans l'agora. La seconde version est parmi la neotas, tas de neotas, les sept de l'agora choisis par tirage au sort doivent rendre leur verdict. Le parti qui remporte le plus de votes gagne et les sept doivent récolter l'amende auprès du parti perdant et donner la moitié au vainqueur, l'autre moitié à la cité. À la ligne de Passons maintenant à l'interprétation historique. Le passage difficile se trouve évidemment aux lignes 8 à 10. Comme le suggèrent les deux traductions que j'en ai données, Katagoran peut être associé directement à Hoihepta, donnant les sept sur l'agora. C'est ce qui a conduit R.F. Willits à penser que les sept étaient un collège de agoranomoi. Giovanni Marchinesu, dans son livre Gortina di Creta, rappelle cependant que l'agoranomia n'apparaît pas en tant qu'institution à Gortine avant le 1er siècle avant Jésus-Christ, ce qui, je pense, n'invalide pas l'hypothèse de Willits. Mais il signale aussi que l'agora est la place centrale dans tous les types de transactions officielles et judiciaires, comme par exemple l'adoption. Il voit donc plutôt l'agora comme le lieu public où le verdict était rendu. Il s'agissait de toute façon de la place où avaient lieu le commerce et les échanges, donc même si nous n'acceptons pas katagoran comme un élément du titre de la magistrature, il est possible de comprendre les raisons de cette location. Mais le texte est plus compliqué et pour bien le comprendre, il nous faut mieux saisir le rôle de la neotas. La plupart des commentateurs ont compris d'après ces lignes que les sept étaient sélectionnés au sein de la neotas, tas de neotas, comme le reprennent toutes les traductions. Il faut cependant remarquer une similitude avec certaines formules du Grand Code des lois de Gortine où l'expression omnuntes crinonton, construite avec un objet au génitif, comme dans notre texte l'expression tas de neotas omnuntes crinonton, signifie que le mot au génitif est l'objet que les omnuntes doivent juger. J'ai retranscrit cela dans ma propre traduction, étant convaincue par ce parallèle de construction qui m'a été suggéré par Paula Perlman. Nous pourrions alors restituer ainsi la procédure décrite. Quelqu'un s'aperçoit qu'un marchand refuse d'accepter le nouveau monnayage de bronze. Il dénonce le marchand à la néotas. La néotas doit avoir un rôle à remplir à ce moment, enregistrer l'information, enquêter, trouver des témoins, et décide si elle veut poursuivre l'affaire ou non. Un comité appelle les sept, est alors choisi par tirage au sort, on ne sait pas au sein de quelle catégorie de citoyens. Ses membres prêtent un serment et, sur l'agora, prononcent un jugement littéralement sur la néotas, dans le sens de « sur l'affaire présentée par la néotas ». La façon dont on interprète le texte affecte bien entendu notre idée concernant la taille du corps appelé néotas. S'agissait-il seulement d'un magistrat, comme l'a aussi suggéré Paula Perlman dans une communication personnelle, ou bien d'un corps plus important, ou même, comme cela a été suggéré également, de l'ensemble des néoïdes de Gortine? Il a même été suggéré que les triacation parionton, les 300 présentes aux lignes 2 et 3, ne correspondaient pas au quorum de l'assemblée de Gortine, mais représentaient une sorte de petite assemblée, peut-être constituée des néoïdes de la cité. Dans ce cas-là, néanmoins, on attendrait l'article ton triakation parionton. Regardons maintenant les autres textes. Le numéro 5 dans votre dossier est le texte numéro 163 des Inscriptiones Criticae. Seule est conservée la marge gauche de ce texte, inscrit sur un bloc de construction. Sa date, d'après la forme des lettres, semble très proche de celle du décret sur le monnayage en bronze, ainsi que l'a suggéré l'éditrice Margareta Guarducci. Je traduis du latin « lettres élégantes du IIIe siècle, similaires au numéro 162 ». Remarquez ici aussi le sigma lunaire. Je ne me suis pas essayée à une traduction. C'est très fragmentaire. On retrouve certains éléments du texte sur le monnayage de bronze. La ligne 5, peuthen, est l'infinitif de peutho, informé. La clause usuelle, aimé, à la ligne 2, sinon, alors. Et à la ligne 4, kataladen, est l'infinitif présent de katalasso, changé ou échangé, mais qui peut aussi signifier transgresser. Pour notre propos, la ligne la plus importante est la ligne 6. Si la neotas ne fait pas, aida neotas me. L'éminent épigraphiste sicilien Giacomo Manganaro a proposé une restitution un peu trop imaginative de ce texte que je ne discuterai pas ici. Vous trouverez les références exactes dans votre dossier. Dans cette restitution discutable, les lignes concernant la néotas ont été partiellement restituées par lui à partir du décret sur le monnayage de bronze, dans l'intention probablement de faire un lien entre les deux textes et de transformer la néotas en un collège habilité à prescrire des mesures plutôt qu'à les faire appliquer. À la ligne 5, Manganaro propose ainsi de restituer kata per tas neotas en graptai. Comme la neotas, je ne comprends pas tas, prescrit. L'ensemble de ce raisonnement est très contestable, mais il y a cependant une chose qu'il a bien vue, c'est qu'à la ligne 8, le hopeios doit être séparé de « di », alors que l'édition originale, que vous voyez ici, voyait un nom propre, « diopeios ». Alors on a celui qui est cosmos, qui que ce soit. Le texte suivant, le numéro 6 dans votre exemplaire, est l'inscription 164 qui a été trouvée dans une maison privée. Je vous montre une photo de l'estampage. Les lettres me semblent être un peu antérieures à celles que nous avons vues précédemment. En haut de l'estampage, il y a une première ligne avec des lettres plus petites. Il s'agit là d'un décret de proxénie en l'honneur d'un homme de Rithumna, c'est le moderne Rithimnon, et ça c'est le Inscriptiones Criticae 4, numéro 207, que l'on a daté du IIIe siècle, pas très précisément. L'existence de cette seule ligne au formulaire convenu montre que le texte en dessous devait être plus large et qu'il faut ajouter environ 16 lettres à droite. À gauche aussi, il devait y avoir de la place pour le nom du proxène et le début de son patronyme. Dans un article publié en 1998, Adalberto Manielli a daté ce texte de la première moitié du IIIe siècle. Dans un article de 1954, « The Neotas of Gotin », R.F. Willits pensait lui aussi que ce texte pouvait être antérieur au texte numéro 162 et 163. Comme vous le voyez, ce texte est encore plus fragmentaire que le précédent. Il nous donne pour la première fois un verbe, neotateio, dans la ligne 3, sous une forme participiale à l'accusatif singulier. Aphistantes, ligne 4, qui est au pluriel, et ne peut donc avoir le même sujet, peut être utilisé dans le sens « finir son mandat à la fin de l'année civique ». Nous pouvons le comparer au verbe « epistamai » comme dans « epistamenos cosmos », le cosmos en place. Le sujet de ce verbe, au pluriel, pourrait cependant être un singulier collectif, comme « ha neotas », comme l'a bien démontré Monique Bill dans son livre sur le dialecte crétois. Et il est donc possible de voir à la ligne 3 un individu unique, neotateon, suivi à la ligne 4 par le collectif de la neotas, dont le mandat s'achèverait à la fin de l'année civique. Adalberto Manielli a essayé de comprendre ce fragment en le comparant à un traité entre les cités de Lato et Olonte de 111-110 avant Jésus-Christ. C'est le numéro 6B dans votre dossier et seule une partie du texte très longue est reproduite. Dans ce traité apparaît un collège appelé Hoi Pregistoi, Hoi Epitais Eunomiais. C'est la ligne 34-35. Manielli soutient que ton adicionta, celui qui a commis un crime dans notre texte, la ligne 1, ressemble beaucoup à aidetis adicesei à la ligne 37 de ce traité et remarque que Cairutni Donsi dans le texte de Gortine reprend avec son nu corrigé en mu, rut mitontes, régulant, dans le traité signé entre Lato et Olonte, c'est la ligne 35. Cela me semble judicieux. Cependant, l'étape suivante est plus audacieuse. S'inspirant de la discussion de Angelos Haniotis sur le fascinant et très long traité entre Lato et Olonte, dans son corpus des traités entre les États crétois à l'époque hellénistique, Manielli cite l'opinion de ce savant concernant la partie du traité qui l'intéresse et qui concerne la régulation des conflits entre ceux qui conduisent leurs troupeaux dans les régions frontalières entre les deux poleis. De manière plutôt confuse, il suggère ensuite que notre texte pourrait aussi avoir comme sujet la régulation des zones frontalières et que la néotas, étant composée de jeunes hommes, était le corps approprié pour patrouiller dans ces zones frontalières, un peu comme les péripoloi et les cryptoi, unités de défense territoriale, ou les horophylakes ou horophylakes, gardiens des frontières ou des montagnes, attestés ailleurs et que j'ai déjà mentionnés lors de ma première conférence. Dans Gortina 7, le supplément aux inscriptions de Gortine, publié par Manielli en 2008, il développe ce raisonnement en écrivant, je traduis de l'italien, « La néotas doit être identifiée comme un corps collégial particulier qui était responsable du contrôle et de la protection des intérêts économiques de la police sur son territoire » et avait pour tâche complémentaire la surveillance des transactions de toutes sortes sur le marché. Il est bien vrai que nous avons à Gortine et ailleurs en Crète des indices en faveur de telles troupes postées en garnison dans des forteresses ou des fortins frontaliers. Celles-ci sont connues sur le nom de Oroi. Les fortins eux-mêmes sont appelés Ureia ou Oreia, des mots dérivant du terme homérique « ouros » et « epi-ouros », garde-frontière. Ces « oroi » sont attestés, par exemple, sous le commandement d'un « pregistos » gortinien sur la petite île de Kaudos, la moderne Gaudos ou Gozo du temps des Vénitiens, qui dépendait de Gortine. Dans un article très amusant, Henri van Effenter a rattaché ces jeunes gardes frontaliers physiquement à une série de petits, voire minuscules fortins dans la région du Mont Oxa et du Cadiston, là où les territoires de l'Onte, de l'Ato et de Dreyros se rencontraient. Un fortin de ce type en plein Kadiston mesurait 9 mètres sur 7 au total et garde encore le souvenir des jeunes gens qui y avaient servi. Je ne peux faire mieux que de le citer. Je cite « Le visiteur qui monte au fort est accueilli à une dizaine de mètres de l'entrée par un aimable salut gravé sur un gros rocher. Gerrit, soyez le bienvenu. Tout auprès, une pointe de flèche et une silhouette d'archer nous indiquent à qui était confiée la garde du poste. Les braves garçons, dont les noms se lisent tout autour, faisaient partie d'une section d'archers. Parmi les graffitis que Van Effenter date par la paléographie de la fin du IIIe siècle, certains célèbrent la perfection des jeunes recrues, comme Clès Aristos, disons Périclès Aristos. Périclès est noble, très noble. Mais on y trouve aussi un petit groupe de charmantes jeunes filles qui doivent correspondre aux, je cite, « élégantes filles d'Olante », dont les talents de danseuse sont célébrés dans un graffito voisin, Joroy Cala, qui danse très bien. Sur le rocher à droite de l'entrée, une inscription précise la distance entre le fort et la ville, Stadia Polios, 28 stades, ou environ 5 km, c'est-à-dire exactement la distance qui sépare le fortin du site d'Olante. Van Effenter suggère que cette indication aurait pu être gravée avec une certaine nostalgie par les jeunes archers abandonnés à l'oisiveté. Cependant, associer ces jeunes péripoloïs qui patrouillaient dans la campagne et gardaient les fortins d'Olante au Néotas requiert une bonne dose d'imagination. Regardons plus précisément le traité d'Isopolitie et de Symmachie entre Lato et Olante, daté de 110, 109 ou 109, 108 avant Jésus-Christ, pour essayer de déterminer ce qui nous a conduit de notre fragment jusqu'aux montagnes crétoises. Examinons en particulier l'argumentation de Caniotis à propos du traité. Ce texte, dont il existe plusieurs copies, est très long et je ne vous en ai donné que l'extrait qui nous concerne ici, c'est le 6b. Je traduis. Et si un cosmos de Lato se rend à Olante ou un cosmos olontien à Lato, il doit porter ses habits ouverts et doit se rendre au Prytanée exactement comme quand les cosmoi viennent pour un festival ou une procession. Et si plus d'hommes de Lato viennent à Olante ou d'Olontiens à Lato, ils doivent dans l'autre cité peut-être prendre place. Le grec n'est pas très clair là. Et si, c'est la ligne 34, et si qui que ce soit prend quelque chose à un Latien ou un Olontien, une action doit être prise par les pregistoi qui sont en charge de l'eunomiai, au pluriel, mènent les enquêtes et assurent le maintien de l'ordre dans chaque cité. Ils doivent réconcilier les parties et entreprendre toute autre action comme il convient. Et que les xenikai, c'est la ligne 37, que les xenikai hodoi, les routes des étrangers, soient sacrées. Tinas, c'est-à-dire sûr ou inviolable, si quelqu'un agit contre la loi sur ses routes, il payera 6 fois l'amende s'il perd le procès. Et qu'ils aient l'épigamia, le droit d'intermariage, etc., etc. Je cite et traduis maintenant Angelos Haniotis. C'est une citation assez longue. Une clause contenue dans les accords entre cités crétoises à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ porte sur les problèmes de sécurité liés à la pâture saisonnière. Le terme xenikai hodoi est souvent utilisé en relation avec des régions montagneuses, en Crète, dans le Péloponnèse, en Phocide et en Sicile. Les magistrats responsables de la sécurité sur ces routes sont appelés pregistoi hoi epitais eunomiais. On les connaît sous des dénominations similaires dans plusieurs cités crétoises, Lato, Olonte, Aptère et Polyrrhenia. Ils sont généralement mentionnés dans des inscriptions ayant trait à la dédicace de construction effectuée dans des sanctuaires, mais cela ne signifie pas forcément que la fonction première de ce collège ait été la restauration ou la surveillance des sanctuaires. Notre source principale sur les devoirs de ces magistrats est le traité mentionné ci-dessus entre Lato et Olonte, à partir duquel nous pouvons déduire que les membres de ce collège intervenaient en cas d'enlèvement ou de vol sur les routes des étrangers. Fin de citation. Un aspect crucial de la démonstration de Kaniotis est que la phrase qui contient le terme « restauré pregistoi », qui ne signifie pas nécessairement « le plus âgé » dans un sens biologique, mais plutôt « celui qui possède le rang le plus élevé », doit être rattaché excusez-moi, à la phrase suivante sur les « xenikai hodoi », les routes qui mènent aux places étrangères, les artères principales sortant d'une polis et que l'on emprunte pour se rendre dans une autre cité. Kaniotis les appelle Fremdenwege, route des étrangers. Mais le texte n'impose pas cette interprétation. Au contraire, comme je vais le soutenir, une autre signification est possible. Les phrases qui précèdent immédiatement la clause sur l'enlèvement et le vol concernent les visites mutuelles entre les magistrats des deux cités, les kosmoi, les principaux magistrats crétois, la façon dont ces officiels devaient porter leur habit ouvert à leur arrivée, le lieu où ils devaient loger, le pritané, enfin le protocole à suivre au cas où un groupe plus large arrivait. Si l'on considère qu'il faut relier la clause au passage précédent plutôt qu'à la clause sur les xenikai hodoi, nous obtenons alors un cas dans lequel, dans chaque cité, à l'occasion de visites mutuelles, les officiels en question doivent agir. Cela pourrait aussi expliquer l'usage du pluriel « eunomiais » en raison du fait qu'il pouvait y avoir différents corps de magistrats responsables dans chacune des deux cités, mais je n'en suis pas sûre. On peut donc conclure que ces clauses particulières du traité ne concernent des personnes en déplacement que dans la mesure où un citoyen de l'une des deux cités commet un vol sur un citoyen de l'autre cité et vice-versa. C'est seulement la clause suivante qui concerne les xenikai hodoi, routes sur lesquelles quiconque agit contre la loi sans précision risque de poursuites judiciaires. Ces gens en déplacement ne sont pas forcément des bergers, car les vols ne se limitent pas aux vols de bétail et ne se déroulent pas forcément sur les xenikai hodoi. En fait, la phrase juste après les xenikai hodoi concerne l'épigamia, le mariage entre les deux communautés civiques, la suivante, la régulation des ventes et des achats, etc., etc. Nous avons donc un très long catalogue des clauses plutôt diverses qui se suivent sans être nécessairement liées les unes aux autres. Il existe cependant plusieurs autres textes que Kaniotis cite pour renforcer sa suggestion que « hoi pregistoi, hoi epitais eunomiais » était responsable de patrouiller les routes et la campagne. Tous sont des dédicaces faites dans des sanctuaires par un corps appelé « l'eunomia », le terme pregistos y est absent. L'un d'eux, trouvé à Polyrrhenia, en Crète occidentale, est une dédicace à Pan par un groupe qui se proclame les Sun-Eunomiotai. Kaniotis a proposé de comparer cette dédicace à une dédicace à Pan et aux nymphes du IIIe siècle trouvées dans l'antre coricien sur le territoire de Delphes, faite par un certain Eustratos et ses collègues patrouilleurs, ou Simperipoloi. Cela débouche sur une autre suggestion intéressante au demeurant, selon laquelle le terme eunomia ne dériverait pas du mot loi ou ordre, et ne signifierait donc pas le bon ordre, mais dériverait plutôt de l'autre sens que possède aussi nemein, à savoir faire paître. Ce qui le relierait au mot épinomia, le droit de pâture. En effet, le sun et une nomiotai avaient déjà été interprétés par Gaetano de Sanctis, non pas comme une instance de contrôle chargée de faire respecter la loi, mais comme un Hirtenverein, une association de bergers, suggestion que Chaniotis rejette absolument. Ce dernier préfère reconnaître dans le collège de Leonomia un équivalent des Orophylakes et Eremophylakes, à savoir les patrouilleurs des campagnes attestées ailleurs. Le pluriel Epitais Eunomiais, dans le traité entre Olonte et Lato, renforce, selon lui, cette interprétation. Dans la Crète hellénistique, où la transhumance était bien attestée et où les bergers traversaient régulièrement les frontières, l'un des rôles premiers des Eunomiotai devait être, selon lui, de résoudre les conflits entre bergers. Vol d'animaux, disputes sur la propriété des animaux errants, etc. Et je traduis de Chaniotis, on pourrait traduire ce titre officiel par « les aînés responsables de la pâture ordonnée des troupeaux ». Fin de citation. Angelos Chaniotis est sans conteste le meilleur spécialiste de la Crète et de l'épigraphie crétoise. Mais tout en acceptant la réalité rurale du territoire crétois qu'il dépeint, nous devons néanmoins reconnaître que sa restitution sur la base des textes que nous avons étudiés reste très, très hypothétique. Retournons maintenant à Gortyne et à la Neotas et tournons-nous vers deux textes récemment publiés. Le premier a été publié en 1998, par Adalberto Manielli et porte désormais le numéro 21 dans son supplément au corpus des inscriptions de Gortyne, paru en 2008. Il est inscrit sur un bloc de calcaire local, découvert à proximité de l'Odéon de Gortyne. Seule la partie gauche est conservée. Notons que cette inscription est plus d'un siècle plus tardive que le texte que nous avons étudié jusqu'ici, ce qui montre que la Neotas n'était pas la réponse éphémère à une situation ad hoc, mais plutôt une institution gortynienne permanente. C'est le texte 7 dans votre dossier, aussi fragmentaire. Après A Neotas, dans la ligne 1, probablement les dédicants, se trouve un patronyme, peut-être celui de son premier magistrat, To Theuginios. Il semble s'agir d'un collège avec un président, tout comme celui des Cosmoi. Aux lignes suivantes, le texte contient le nom de cinq Cosmoi, probablement cinq, de l'année et Cormion, ligne 3, parmi lesquels se trouve le Hierurgos, mentionné séparément à la ligne 5. Le corps des Cosmoi comptait normalement 10 membres, mais tout n'était pas systématiquement nommé. Le Hierurgos était un membre du collège qui s'occupait plus particulièrement des affaires religieuses, notamment des serments. Ce texte ressemble tout à fait à une dédicace de fin de mandat par un ou deux collèges de magistrats. Manielli, au contraire, propose dans son commentaire de l'inscription d'y voir une dédicace au dieu Hermès pour les raisons suivantes. 1. L'inscription a été découverte non loin de l'Agora. 2. La Neotas avait autorité sur le marché, comme l'atteste, selon lui, le décret sur le monnayage de bronze. 3. La Neotas était composée de jeunes gens, probablement les Éphèbes, ou leur équivalent crétois, les Agelaoi. 4. Hermès était le dieu du commerce, du gymnase et de la jeunesse. Je m'abstiendrai de commenter cette interprétation dans les médias. Une inscription publiée pour la première fois par Manielli en 2008 et qui date de nouveau de la seconde moitié du IIIe siècle avant Jésus-Christ, semble à première vue supporter sa restitution précédente. Il s'agit d'un texte difficile, retrouvé sur trois blocs différents, dont deux fragments A et B étaient jointifs. C'est votre texte 8 dans votre dossier. D'après Magnelli, les quelques lignes conservées reproduisent les clauses d'un traité entre Gortine et une autre cité. La Néotas y est citée comme étant l'entité habilitée à percevoir l'amende à laquelle un hiérarchos était condamné s'il n'accomplissait pas au cours de sa magistrature le sacrifice requis dans un sanctuaire dans lequel il officie. Magnelli a vu dans ce texte les clauses d'un traité, peut-être d'Isopoliti, entre Gortine et une cité anonyme. Les clauses sont de nature religieuse, les ambassadeurs des deux cités demandant aux prêtres et aux hiérarchoi d'accomplir certains actes religieux dans un sanctuaire situé peut-être à la frontière entre les deux communautés, mais cela reste une hypothèse. À la ligne 2, la collecte de fonds, l'ambanein, est liée au sacrifice à venir. Puis, les deux parties prêtent serment, ligne 3, exorcizantes, et les magistrats prononcent ensuite des malédictions, eparas, dans un délai peut-être de 10 jours. Le grec n'est évidemment pas totalement clair. Le sens de la ligne 4 semble être que si le hiérarchos omet, elipei, de faire un sacrifice avant la fin de sa magistrature, il doit payer une amende que percevra la neotas, praxanton la neotas. Si l'on décide qu'il s'agit d'un traité concernant un sanctuaire frontalier, le rôle de la neotas pourrait être lié à ses fonctions de garde des zones frontalières et donc du sanctuaire. Nous sommes donc revenus aux frontières. Mais cette proposition s'appuie sur une lecture subjective des autres textes et sur la volonté impérieuse, me semble-t-il, de repousser les jeunes gens aux marges du corps civique. C'est là ce que l'on pourrait appeler l'illusion éphébique. Que peut-on vraiment conclure sur la néotas de Gortine en s'appuyant sur les textes disponibles? Dans le décret sur le monnayage de bronze, la néotas apparaît comme une institution auprès de laquelle on pouvait dénoncer une malversation. En d'autres termes, son rôle n'était pas économique, mais judiciaire. La dédicace numéro 7 dans votre dossier est, à mon avis, une dédicace de fin de magistrature par un corps de magistrats exécutif et subalterne. Dans le dernier texte que nous venons de voir, si du moins la lecture est correcte, la néotas était chargée de percevoir des amendes, c'est-à-dire qu'elle exerçait une fonction exécutive. C'est tout ce que nous apprennent les textes qui offrent plus que des fragments, tandis que les textes fragmentaires confirment plus ou moins cette idée. Dans le texte 6a, neotateonta doit signifier quelque chose comme exerçant la fonction d'un membre de la neotas, sur le modèle du verbe prostateion, exercer la fonction de prostates. Il est donc difficile de tirer des conclusions générales de ces textes problématiques et fragmentaires. Il en ressort néanmoins une image qui ressemble étonnamment à celle d'un collège annuel de magistrats subalternes chargés d'exécuter et de faire appliquer des règlements, en particulier ceux qui impliquaient le prélèvement d'amendes. Le contrôle du marché ne faisait en revanche pas partie de leurs responsabilités. Il me semble indéniable que le critère de l'âge qui dominait les divisions civiques pendant la guerre entre Gortine et Lithos doit aussi avoir joué un rôle dans la création de cette magistrature. La date de cette création, qu'elle soit postérieure à cet épisode traumatique et représente un geste de réconciliation, ou qu'elle soit plus ancienne, comme je le pense moi-même, reste sujette à débat. Le texte que je vais vous présenter dans quelques instants permettra peut-être d'apporter quelques éclaircissements sur cette question. Il est clair néanmoins que le terme néotas, dans ces inscriptions, ne peut pas représenter l'ensemble du corps des néotéroi, néoi, c'est-à-dire les citoyens avant l'âge de 30 ans. Il doit plutôt correspondre à un collège annuel sélectionné au sein d'un corps plus large. Pouvait-il s'agir d'un collège adjoint à celui des cosmoi, une sorte de bras exécutif qui aurait ainsi appris les ficelles du métier en secondant ses magistrats de première importance? Dans ce cas, il est très probable que leur nomination ait été le résultat d'un mouvement révolutionnaire. Il pourrait plutôt s'agir de jeunes hommes issus des élites de la cité. Ce raisonnement reste hypothétique, mais il a le mérite de donner plus de sens au terme néotas. Il est tout à fait intéressant de voir des magistrats juniors, en quelque sorte désignés de cette façon très particulière et unique, et nous aimerions trouver un jour une confirmation du fait qu'il s'agissait là d'une pratique crétoise plus générale. Vous avez maintenant compris que j'ai des doutes sur le fait que la néotas, au moins sous la forme où elle apparaît dans ces textes, ait eu quelque chose à voir avec le contrôle du territoire ou le maintien de l'ordre parmi les bergers qui se déplaçaient le long des Xenikai Hodoi avec leurs troupeaux. Je reconnais néanmoins que les petits forts frontaliers dont Van Effenter nous a donné un merveilleux aperçu étaient souvent tenus par des jeunes crétois, tout comme le fait que les territoires étaient surveillés dans d'autres régions du monde grec par des jeunes recrues qui s'agissent au nom des Phèbes. Je finirai de manière très prosaïque avec une dernière inscription, cette fois bien plus ancienne, découverte près du temple d'Apollon à Gortyne. Cette inscription, la dernière dans votre dossier, date de la période comprise entre 480 et 450. C'est une inscription en boustrophédon, écrite de gauche à droite et de droite à gauche. Nous ne pouvons pas dire grand-chose de son contenu. Ce n'est pas celle-là. C'est ça, exactement. Alors, de droite à gauche, de gauche à droite, comme ça. Nous ne pouvons pas dire grand-chose de son contenu. À la ligne 2, Dexamenos est celui qui reçoit, le destinataire. À la ligne 4, si quelqu'un ne reçoit pas, même verbe, alors après, Thanatos, la mort, à la ligne 5. À la ligne 3, nous avons une combinaison de mots étranges. Den, e, ho, tas, tha. Et vous avez les lettres en majuscules dans votre dossier, en dessous. La combinaison, découpée différemment, pourrait donner le résultat suivant, plus satisfaisant à mon sens. Ha de neotas, tha. L'éditrice des inscriptions, Criticae, Margarita Grotucci, avait déjà évoqué cette possibilité, mais l'avait rejetée, considérant comme presque tout le monde que la néotas, le Juvenum Concilium, était une réponse aux vicissitudes de la guerre civile, ex illis vicissitudinibus exhorta esse. Pour ma part, je pense que nous tenons peut-être là la meilleure preuve que le corps de la néotase ne doit pas être systématiquement rapproché du contexte séditieux ou des événements révolutionnaires des années 220-219. Cela reste en tout cas un sujet de discussion. Je conclurai donc là-dessus en vous remerciant pour votre attention.